Jean 17, comment on appelle cette... je vais dire, quel titre on donne au chapitre 17 de Jean d'habitude? Dave, c'est ça. La prière sacerdotale. C'est-à-dire Jésus qui prie étant notre représentant devant Dieu, notre grand prêtre, le grand sacrificateur. Moi ici, dans ma Bible, ça dit la prière sacerdotale. On va pas la lire au complet, on va lire vers la fin, parce que vraiment ce que je veux amener, c'est pour vous dire que ce qu'on considère aujourd'hui, Jésus a prié pour ça. En tout cas, ça se peut que ça soit important. Si Jésus a prié pour ça il y a 2000 ans, pensez-vous que ça vaut la peine qu'on s'arrête un peu là-dessus? Mais lisez avec moi verset 20 jusqu'à 24. Donc là, c'est Jésus qui prie. Ce n'est pas pour eux, ça m'appelait parler des disciples, okay, ceux qui étaient avec eux, avec lui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça, c'est nous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que je t'ai envoyé, que tu m'as envoyé, voyons, excusez. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, que tu... Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est vraiment la section sur laquelle je veux qu'on s'arrête. Et là, avant de considérer ça plus en détail ensemble, on est dans la série sur notre victoire, la vie victorieuse en Jésus depuis plusieurs semaines. En fait, moi j'ai ici message 14. Fait que, quand même, on peut dire qu'on a quand même fait du chemin ensemble. Dans cette belle série où est-ce que vraiment on apprend ce que nous sommes en Jésus-Christ. Tout ça. Puis rappelez-vous le dernier message. Et là, je dis la semaine dernière, c'était-tu la semaine dernière, on avait le repas du Seigneur? En tout cas, on a parlé de renverser les forteresses. OK, je pense que c'est la semaine dernière. Bien là, on va enchaîner dans ce message-ci et le suivant. Aujourd'hui, c'est la partie 1 de deux messages. Sur toute la question de la maturité spirituelle. Et le but, c'est de bien comprendre notre rôle et notre responsabilité dans nos relations interpersonnelles. Notre maturité se jauge à travers notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Si je réagis comme un bébé lala quand il y a des problèmes avec les autres, je ne suis pas mature. Mais si je réagis de façon christique, je montre que, c'est Christ qui vit en moi, c'est par l'Esprit que je réponds à ce que Dieu m'envoie, aux personnes que Dieu m'envoie. Et donc, le titre du message, c'est « Nos relations avec autrui ». Puis là, c'est la première partie, la semaine prochaine. Oui, semaine prochaine, on va voir la partie 2. Et donc, le but, c'est de bien comprendre notre rôle et nos responsabilités afin qu'ensemble, on grandisse dans le Seigneur pour expérimenter la réelle unité spirituelle. Et je devrais dire aussi la sainteté. Pas qu'on recherche la sainteté comme une fin en tant que soi, mais quand on est unis spirituellement, on expérimente la sainteté, c'est-à-dire on est à part de ce qu'on peut voir ailleurs dans les siècles religieux ou dans le monde. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est de la marque de Dieu, qui est, vous savez, saint, ça veut dire à part, incomparable. Et Jésus, il dit à ceux-ci, tous vont connaître que vous m'appartenez à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et cet amour-là, c'est ce qui crée cette unité spirituelle. Je vais vous le dire en un verset. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Éphésiens 4, 16. Et vous connaissez les deux plus grands commandements? Moi, j'ai le premier, c'est le verset de ma vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ceci dépendent la loi et les prophètes. Je pense que je vous l'ai pas mal dit. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Là, j'aurais trois chocolats. Je vais les garder pour plus tard. En tant que disciple de Jésus-Christ, on veut faire partie de la réponse de Jésus à la prière qu'on vient de lire. Là, la section de prière, mais la prière au complet dans Jean 17, c'est quoi? Que nous soyons un. Mais ça, c'est pas artificiel, c'est pas cosmétique, c'est-à-dire juste là pour les apparences, mais c'est organique. C'est quelque chose que, tu sais, comme notre corps est un, il y a plein de parties toutes qui font tout fonctionner ça. Ben c'est ça ici l'unité dont il est question. Une unité organique, fonctionnelle, vivante. Et comment? C'est par l'amour pour Dieu d'abord, puis aussi de notre prochain. Et apprendre, dans le fond, dans nos relations les uns avec les autres, va exiger qu'on assume nos responsabilités. J'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps. Non, je n'ai pas parlé encore, mais je vais vous en parler, parce que ça va être dans la partie 2. Mais l'accent... Non, j'en ai parlé le mercredi, c'est ça. Mais j'ai juste effleuré. L'accent ne doit pas être sur ce que les autres ils devraient faire pour moi, mais ce que moi, je devrais faire pour les autres. Rappelez-vous, je donnais l'exemple dans un couple, dans une famille. Je peux dire, ah, ben là, moi, en tant que père, mes enfants doivent m'obéir. Ou tu sais, on peut regarder... Puis c'est des choses vraies et légitimes, mais c'est pas ça que c'est pas là-dessus que je me concentre. Je me concentre sur la responsabilité que j'ai de les élever, de les éduquer dans les voies du Seigneur. Puis quand je dis me concentrer, je me concentre sur le Seigneur parce que c'est ça que le Seigneur m'appelle à faire. C'est ce qui m'appelle à être auprès d'eux autres. Et donc, quand chacun comme ça s'occupe de ses propres personnalités, de ses propres responsabilités personnelles et recherche comme ça à combler les besoins des autres et non pas à ce que les autres le comblent, ça change toute la dynamique, puis ça va beaucoup mieux. Puis, ce qui est beau dans ce qu'on vient de lire, là, rendez-vous compte, Jésus a prié pour nous autres. Là, parce qu'il priait pour nous autres, puis il dit, je te prie pour ceux qui vont croire en cours de la parole. C'est nous, ça. Parce que là... Pierre, Jean-Jacques ont partagé l'évangile, puis les autres l'ont partagé avec d'autres, puis là, vous faites bien du temps, puis bien du monde, puis on est rendu au bout, après ça, avec nous autres qui ont cru ce même message. Et donc, Jésus a prié, mais aussi, nous avons quand même la responsabilité, on a le choix. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Dieu ne nous a pas fait comme des robots, que au moment où on aurait envie de pogner une heure, puis de ne pas être gentil avec ceux qui nous font du mal ou de répondre pour rendre la monnaie de la pièce. Dieu ne nous a pas fait comme un robot qui pèse un bouton puis pouf, on bloque, on devient gentil ou je sais pas trop, là, on devient neutralisé. Non, il faut qu'on fasse le choix. Tu sais, je décide ce que je vais faire lorsque ces choses-là arrivent dans ma vie. Parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, a voulu que ça soit de même. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés libres puis il nous a créés comme ça pour que ça soit un sacrifice d'adoration, notre culte envers Dieu, qu'on exprime envers notre culte, envers Dieu, qu'on exprime envers les autres. Alors, Jésus a prié pour nous. Et pourquoi il prie? L'unité spirituelle. Bon, on s'entend, c'est important que Jésus prie. Puis là, pourquoi il prie? Pour l'unité spirituelle. Vous avez vu combien de fois il dit qu'il soit un, unité, ça vient de un. Et c'est à l'image de la relation avec la Trinité, donc le Père avec le Fils, mais aussi... le Saint-Esprit, que c'est une unité parfaite dans la Trinité. Et nous sommes appelés à aussi avoir une unité comme ça, spirituelle, en Dieu. Et je pense que là, ici, on doit comprendre, si Jésus, qui avait toutes sortes de choses qu'il aurait pu prier, a prié pour ça, ça veut dire que c'est important. Pourquoi? Parce que ça révèle Dieu en notre sein. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente. Au verset 24, on dit, on a lu... Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Quand on est un, quand on vit cette unité spirituelle, on manifeste la gloire de Dieu. Et maintenant, quelqu'un va se poser la question.
On va revenir un peu comme ce matin, des oui mais, des questions qu'on pourrait avoir.
Oui, mais le plus important, c'est pas de propager l'Évangile. C'est pas que les gens puissent connaître le Seigneur, de prêcher aussi l'Évangile aux saints, qu'on puisse grandir dans la connaissance, dans la grâce de Dieu. Oui, mais c'est pas comme si un excluait l'autre. Parce que regardez le verset 23. On va reculons dans notre texte, là. Jésus ici qui dit « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Regardez ce qui suit. « Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Quand on est un, on donne un message au monde. On prêche, on incarne le message de l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est prendre tout ce qui est éparpillé, tout ce qui est épars, c'est brisé, puis c'est le mettre uni ensemble en Jésus-Christ. C'est le résultat de l'Évangile. Fait que quand les gens voient ça, ils voient c'est quoi l'Évangile. C'est ça que ça produit. C'est ça une église, c'est prendre du monde, comme dirait Paul, dans comme dans un autobus, tout du monde tout différent, puis pouf, t'es mis ensemble, puis là, ils sont un. Ils s'aiment, ils s'appartiennent les uns aux autres, c'est une famille. Ça, ça manifeste l'œuvre de Dieu. OK? On n'a pas ça autrement à ce niveau-là. Il peut y avoir des clubs sociaux, il peut y avoir certaines affinités dans un club de hockey, mettons. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est incomparable. C'est saint, c'est à part. Il n'y a rien comme ça dans le monde. Et d'ailleurs, c'est la marque de reconnaissance que Jésus a donnée. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, il y a un lien direct entre notre unité spirituelle et le salut du monde. On proclame Christ, on proclame l'Évangile lorsqu'on est unis ensemble, lorsqu'on a cet amour qui nous unit ensemble. C'est pas que ça remplace l'Évangile, d'amener le message. Il faut le dire, mais il y a quelque chose avec l'unité spirituelle qui est unique pour aller incarner ce message. Maintenant, pourquoi il n'y a pas plus de monde dans notre communauté qui répondent à l'Évangile? On pourrait se dire, parce que les gens ont le cœur endurci. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est dans une société post-moderne. Et que les gens, dès l'école, ils n'entendent même plus parler de Dieu. Il y a des jeunes qui ne savent même plus c'est qui Jésus. Puis on peut donner toutes sortes de réponses qui ont absolument leur valeur. On pourrait dire aussi peut-être que nos méthodes sont passées date, ne sont pas mises à jour pour être améliorées. Ou on pourrait dire aussi, il n'y a pas assez d'ouvriers dans la moisson. Est-ce que ces réponses-là sont fausses? Non. Puis on peut trouver aussi toutes sortes d'autres raisons valides pour expliquer pourquoi la réponse à l'Évangile est si petite. Mais trop souvent, on a tendance à négliger des explications de ce qui ne frappe pas l'œil, de ce qui n'est pas aussi pragmatique. Par exemple, dans le domaine spirituel, on sait que les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On a un ennemi, Satan, voile. On a un ennemi qui veut enlever la semence de l'Évangile lorsqu'elle est plantée dans le cœur de quelqu'un. Il y a cet aspect-là. Mais savez-vous qu'il y a un autre côté aussi, un autre côté à la médaille? Tantôt, on va chanter. J'ai déjà le dernier préféré, désolé. Il va avec le message, mais « Béni soit le lien qui nous unit en Christ ». Et qu'est-ce que ça dit? Ça vient du psaume 133. « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » Et au verset 3, ça dit « C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Lorsqu'il y a l'unité spirituelle dans le peuple de Dieu, Dieu envoie sa bénédiction puis sa vie. Il y a quelque chose de Dieu qui est là qu'on ne retrouve pas ailleurs lorsque les frères et sœurs demeurent dans l'unité. Autrement dit, si on veut expliquer la stérilité par rapport à l'Évangile, il faut aller au-delà de toutes les explications pratiques ou les responsabilités individuelles qui peuvent y aller, mais chaque communauté est une moisson potentielle où est-ce que la semence a besoin de la lumière. Et nous sommes la lumière, mais si avec nos chicanes et nos divisions, on met le boisseau, on empêche l'œuvre de Dieu de croître. En fait, on embarque dans le, travail de Satan avec notre chair, puis on voile l'évangile. Puis Satan veut regarder le monde, le cœur, même des chrétiens dans les ténèbres. Il veut voiler. Mais lorsque l'Église se repent de son péché, qu'elle se détourne de ses mauvaises voies et exerce la vraie unité spirituelle telle que décrite dans Éphésiens 4, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver, pas de créer, de conserver l'unité. L'esprit est parfaitement uni, là. La Trinité, ça veut dire c'est là, là. Mais de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Lorsqu'une église vit ça, lorsqu'elle se repent de son esprit, de son zèle amer, son esprit de dispute, et qu'elle se met à agir comme le corps qu'elle est réellement, parce qu'on rappelle que c'est Dieu qui a fait son œuvre en faisant de nous une assemblée locale qui est une représentation locale de son corps. Quand ça arrive, l'ennemi est neutralisé par la lumière qui s'en dégage. Parce que pour chasser les ténèbres, là, on n'a pas besoin de faire des simagrées, on a juste besoin d'allumer la lumière. Ben, lorsque la lumière de l'église est allumée, pfiou, les ténèbres s'en vont. C'est automatique. La lumière se propage. Le résultat, il y a plus de personnes qui vont répondre aux chrétiens qui sortent de ce genre d'église-là pour aller dans la moisson. Puis c'est ça qu'on fait le reste de la semaine. On s'en va dans la moisson. On est des ouvriers dans la moisson. Et lorsqu'on est dans une église où est-ce que l'unité spirituelle se vit, ça va arriver. Puis c'est aussi vrai, encore même plus grand. Puis là, je ne parle pas de façon écuménique, mais entre églises, si les églises, on a juste à chicaner et à se tirer des tomates, pensez-vous que ça l'affecte positivement l'œuvre du Seigneur? Effectivement, non. Et je veux donner deux illustrations qui vont vous aider bien à comprendre tout ça. Le lien là, entre la propagation de l'Évangile versus l'unité spirituelle. Imaginez-vous un instant qu'on a un petit fermier. Mais c'est vraiment un petit fermier avec des petits moyens. Puis tout ce qu'il y a, c'est une faux. Vous savez, c'est quoi une faux, là? Oui. Ça s'écrit faux, je l'ai vérifié. Comment ça s'écrit faux? F-A-U-X. Une vraie, j'imagine que ça n'existe pas. Il y a juste une faux. Fait qu'il est avec sa faux dans un champ de blé, puis il met du cœur là-dedans. Mais je ne sais pas, vous savez, mais un champ, c'est grand. Puis une faux, ça fait pas beaucoup de... T'as pas une grande, mettons, superficie d'action. Il est là, puis il bûche, puis il bûche, puis il bûche. Puis il peut juste faire, finalement, au bout de la journée, une infime partie du champ. Par contre, saviez-vous que à sa ferme, il y a une belle moissonneuse batteuse flambant neuve. Le problème, c'est qu'elle est arrivée de la Chine en pièces... Pas de la Chine, parce que même s'il y a ensemble, elle ne marchera pas plus, mais... Elle est arrivée en pièces détachées. Fait qu'il y a une belle moissonneuse batteuse, mais juste des pièces partout. Donc, ça ne sert à rien. Si le peuple de Dieu est réellement et puissamment uni, on va pouvoir ensemble, ça va faire un momentum pour pouvoir avoir un impact sur tout le champ. Ce qu'une personne ferait seule dans son coin, on va pouvoir, avec ça, faire tellement plus. Comme cette moissonneuse-batteuse. Je ne sais pas, ça prend combien de temps pour une moissonneuse-batteuse faire un champ, mais certainement pas une semaine ou peut-être une question d'heure, dépendamment de la grandeur du champ. Maintenant, je vais vous donner une autre illustration. Imaginez une belle grosse chute, une immense chute. Montmorency, tiens. Les chutes Montmorency, quand même, c'est respectable, c'est peut-être pas les plus grosses chutes du monde, mais... Et là, elles jaillissent, là, comme les chutes Montmorency d'un ravin, dans le fond, la rivière arrive là, puis pfiou, c'est un... Pourtant, le lit de la rivière en bas, bon, là, on mettra pas le fleuve Saint-Laurent, là, mettons que c'est en avant des champs, où est-ce que le lit de la rivière, il est à sec. Il est à sec, il n'y a rien qui coule, la terre est aride, c'est un désert où il n'y a pas rien qui pousse, il n'y a pas de vie. La raison, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau, je viens de dire, c'est un torrent qui coule. La raison, c'est parce qu'il y a une grande fissure dans le lit de la rivière. Et toute l'eau y est engouffrée. Si la fissure elle pouvait être colmatée, remplie, la rivière... Puis la terre reprendrait vie. Bien, de la même manière, si Dieu répand son esprit sur nous du fait qu'il colmate les brèches, qui répare les fissures dans notre unité. Ce qui va en bénéficier, c'est la vie, puis ça va, tout ce qui va s'en suivre, tout ce qui va par après, ça va être beau, ça va produire la vie de Dieu en nous, autour de nous. Et donc, vraiment, c'est pour vous montrer comment ces illustrations-là, des fois on dit une image vaut mille mots, ça nous aide à mieux comprendre que l'unité spirituelle est d'une importance vitale, et à cause de ça, nos relations les uns avec les autres, c'est vraiment important, parce qu'on peut tout être pour l'unité spirituelle, mais c'est quand on est avec quelqu'un d'autre que c'est plus dur. J'ai pas le goût d'être uni avec lui. Lui, il est plus tannant. Je peux-tu être uni avec ceux-là juste que j'aime, puis qui sont... Comprenez-vous, l'unité spirituelle, ça peut être beau en théorie, puis on veut tout ça, mais quand l'autre, il nous tanne, ben, c'est plus dur. Mais c'est ça le point de l'unité spirituelle. Puis dans l'Église naissante, c'était quoi? Des Juifs, des païens. Puis nous, on est des gens avec des arrière-plans différents, des nations différentes, hommes, femmes, enfants, vieux, plus jeunes, puis, OK, tu mets tout ça ensemble, un en Jésus-Christ. Et mes amis, ça revient un peu à ce qu'on disait ce matin. On n'est pas le centre de notre vie. La vie puis l'Église, c'est pas par rapport à moi. Ah, moi j'aimerais donc que ça soit le même. Moi j'aimerais ça que ça soit pas comme ça. Souvent les gens arrivent comme ça dans une église. Vous, votre église, êtes-vous comme ça? Puis là, c'est un peu comme au restaurant. Ah, moi j'aime pas ça. Un peu plus de sel, puis moins. Non, l'Église puis notre vie, en général, c'est par rapport à Dieu et à son œuvre. Par rapport à lui. Ainsi, on comprend l'importance cruciale de la prière de Jésus dans Jean 17 puis son impact sur le monde. Il veut que l'œuvre de Dieu reste par rapport à Dieu. Est-ce qu'il prie vraiment ici, centré, pragmatique sur l'homme? Non, il dit, je veux qu'il soit comme nous, on est un. Voyez-vous comment la mesure de l'Église puis de l'unité, c'est pas nous, c'est lui? Ben, ça n'a pas changé, là. Puis c'est ça la réponse. C'est quand que l'Église va vivre à la lumière de ce que Dieu a fait d'elle. On comprend aussi comment l'unité spirituelle est une question, non pas de moi être au centre de ma vie, parce que ça, c'est comme être, faire une séparation des fissures, mais plutôt que Christ qui est le centre de ma vie, qui, ça rassemble. C'est le surnaturel de la grâce de Dieu qui unit ce qui, normalement, serait totalement éparpillé, disparate. Puis dans le prochain message, on va voir plus en détail, c'est quoi les responsabilités individuelles qu'on a par rapport à cette unité collective, là. On va voir ça plus en détail la semaine prochaine, mais pour terminer, c'est une longue introduction, hein? Non, mais c'était pas vraiment une introduction, là. C'est juste, j'ai juste deux petites choses que je vais vous partager en terminant, qui vont nous aider à comprendre deux choses importantes, là, dans le domaine de l'unité spirituelle. D'abord, là, quand on parle des relations, les gens avec les autres, il faut comprendre comment Dieu nous approche, nous autres, face à la question des relations interpersonnelles. Est-ce que nous, on a donc aimé Dieu, puis on a donc été fin, puis là, Dieu est venu à nous parce qu'il nous a vus. Lui est dans le club des fins, elle est dans le club des super, des parfaits. Non, il nous a aimé le premier, même quand on n'était pas aimable. Car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puis la Bible nous dit que pour nous, nous l'aimons. Pourquoi? Parce que lui nous a aimé le premier. OK? Donc, on peut donner ce qu'on a reçu, mais on le donne justement parce qu'on l'a reçu, pas parce qu'on l'a en nous-mêmes. Ça, Jésus l'a dit, là. Ça, c'est dans Matthieu 10, 8. Je ne me rappelle plus, je l'ai noté où, mais c'est pas grave, je vous dis ce que ça dit. On donne selon ce qu'on a reçu. Mais aussi, un autre exemple, on peut être miséricordieux parce que lui a été miséricordieux envers nous. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Je peux aussi pardonner parce que j'ai été pardonné. Encore là, la mesure, c'est Dieu en Jésus-Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Donc, comment Dieu m'approche, ça va déterminer comment j'approche les autres. Lorsque Dieu en Jésus-Christ est la mesure, le baromètre de mon approche dans les relations avec les autres, ça change complètement tout. Ça change toute la dynamique de mes rapports mutuels. Pourquoi je serais dur et intransigeant lorsque, avec les autres alors que je demande à Dieu de donc être patient et doux avec moi? Ça, c'est un non-sens, n'est-ce pas? Mais lorsque je vois comment Dieu m'approche, puis il est patient, puis il est fidèle, puis il est miséricordieux, lorsque je vis à la lumière de ça, puis que l'autre, il vient me sortir de ma zone de confort, puis que j'aurais le goût de répondre autrement, lorsque je me rappelle, ça m'amène à réagir autrement. Et ça, là-dessus, je vais vous citer, je l'ai pris en note, ça va peut-être ressortir dans un autre message, mais Sébastien me partageait, c'est Scott Parley qui a écrit « Tout péché origine dans le fait d'oublier Dieu. » On oublie Dieu, puis ça dit, dans la citation de Scott Parley, il dit « La Bible, c'est le livre de mémoire de Dieu. » Qu'on se rappelle de lui, on parlait ce matin de la crainte d'éternel, se rappeler qu'il est là, d'être conscient de sa présence. Quand on pêche, on agit comme si Dieu n'était pas là. Puis quand on est rough avec les autres, on oublie comment Dieu est doux avec nous. Puis on est comme ce gars qui étrangle le serviteur, alors que lui vient d'être pardonné une somme infinie. Donc c'est important à comprendre. Dieu nous approche d'une certaine manière, ben je devrais approcher les autres à la lumière de ça. Écoutez, 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Puis si quelqu'un se pense bon, puis qui dit, « Ouais, mais l'autre, il ne mérite pas, puis tout ça, puis là, qu'est-ce qu'il y a qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Mes amis, quand on se rappelle de ce qu'on arrive, puis ce qu'on était, puis ce qu'on est encore même, à plusieurs égards dans nos habitudes, ça calme nos ardeurs quand quelqu'un nous, mettons, nous prend pas du bon bord. Ça nous rappelle constamment que Dieu nous empêche, ce rappel-là, se rappeler de ces choses-là, ça nous rappelle de ne pas s'égarer dans nos passions, les tendances, les pièges, les tromperies de notre propre chair, de nos propres raisonnements. Vous savez quoi, des fois, les pires moments, c'est quand on a des bonnes intentions. On arrive avec quelqu'un, puis je vais t'aider. Attention, des fois, ça peut être la chair. Puis je vais te fixer, tu vas voir. Ah, j'ai plein de bonnes intentions, tu as un problème, je vais t'aider. Puis c'est pas qu'on n'est pas appelé à s'aider les uns les autres, mais est-ce que vraiment on le fait par l'esprit? Est-ce que vraiment c'est initié par Dieu? Ou c'est nous autres qui... Ouais, il est tannant, je vais dire très gentiment comment je vais l'aider, il sera plus tannant. Attention, des fois, le motif, puis la raison, puis... Matière réflexion. Deuxième point avec lequel je veux terminer, nous devons toujours rester conscients de nos faiblesses. Hein, qu'est-ce qui est arrivé lorsque, dans Ésaïe, Ésaïe a la vision de l'Éternel dans son temple et le pan de sa robe remplissait tout le temple. Et, parce que les rois de l'époque, lorsqu'il y avait un grand royaume, il y avait un tu sais, c'est comme une espèce de cap là, qu'il y avait, puis plus était long, plus leur royaume était grand. Ben là, ils voient Dieu, là, puis ça traîne, là, si vous voulez. Ça remplit tout le temple. Ça veut dire, là, tu sais, il n'y a pas de roi comme lui, là, c'est tellement grand, là, excuse-le, mais tout est à lui, là. Fait que lui, il capote, il voit ça, Dieu, puis. C'est une vision de la grandeur, de la majesté de Dieu. Est-ce que ça, quand c'est arrivé, il a dit, « Ouais, ça me fait penser à mon voisin, là. Hey, man, qui fait dur, lui. Il faudrait bien qu'il voit ça. » Qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu la gloire de Dieu de même, Ésaïe? Il est tombé sur sa face et il a dit, « Malheur à moi. » Il n'a pas pensé à son voisin. Faut pas se concentrer sur les problèmes des autres. Si on a vraiment une vision de Dieu, puis là, je parle pas de vision de... d'affaires mystiques, là. Mais si vraiment on est saisi qu'avec la crainte de l'Éternel, de la présence de Dieu, notre attitude par rapport au péché, pour nous, mais aussi pour les autres, va être complètement différente. Pensez à Pierre. Lorsqu'il était comme ça à la pêche, dans Luc, et que là, il se rend compte que celui qui leur parle, c'est Jésus. Il n'ose même plus après ça se présenter, puis il dit... attends, je vais vous dire comment il dit exactement. Dans Luc 5-8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, aux genoux de Jésus, il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il n'a pas pensé à son frère André qui faisait des problèmes. Il n'a pas pensé au fils de Zébédée qui n'était pas tout le temps sa coche. Non, il a pensé à lui, parce qu'il voyait Dieu tel qu'il est. Lorsqu'on voit Dieu pour ce qu'il est réellement, on ne devient pas conscient du péché des autres, mais des nôtres. Mais lorsqu'on est tiède, que notre relation avec Dieu a terni. On a la fâcheuse tendance d'ignorer, de négliger, d'excuser nos péchés, puis nous concentrer sur ceux d'autrui. Est-ce que c'est vrai? On oublie notre propre faiblesse, notre propre péché. Et dans notre bienveillance, on veut le faire connaître aux autres parce qu'on les aime, on veut les aider, n'est-ce pas? C'est-tu pareil? Comme disait grand-père, c'est ratoureux. C'est ratoureux. Ben, l'unité spirituelle, dans une église comme la nôtre, c'est vital pour sa santé, sa vitalité spirituelle. Et c'est pour ça qu'on doit la chérir. Pour ça qu'au lieu de se concentrer sur les autres, puis d'oublier nos faiblesses, on est conscient de ces choses, puis on prend soin les uns des autres. Au lieu de se concentrer sur ce que les autres devraient donc faire pour moi, donc des choses même je peux être légitimement en droit de recevoir, c'est pas ça mon enfant, c'est pas ça que je recherche. Je recherche comment bénir les autres. Et lorsqu'on voit ça, la mission de l'Église, l'Église grandit son influence dans le monde, elle s'accentue. Et la question pertinente et déterminante par rapport à cette unité spirituelle, cette croissance dans la grâce de Dieu, c'est simplement nos relations avec les autres. Comme je l'ai dit, en théorie, on peut tous être d'accord. Ah oui, unité spirituelle, c'est super. Oui, mais ça se traduit concrètement dans les relations avec des personnes. Puis pensez-y de même. Moi aussi, c'est une affaire. Tantôt, je parlais d'illumination. Là. Moi, depuis... j'ai dit un peu vous casser les oreilles. Je vous casse souvent les oreilles. Un prédicateur tout le temps de main, ça finit par radoter. Là. En tout cas, mais c'est pas grave, je le répète encore, je re-radote. Okay? Tant qu'à être dans le radotage, on va y aller à fond. Les personnes, c'est pas juste des problèmes. Les personnes, c'est des personnes. Là, je vous dis ça, ça peut être vraiment cocon quand je dis ça. Là. Mais Saint-Esprit, quand il nous révèle une affaire de main, ça nous fait réfléchir. Est-ce que je vois la personne, puis je vois, ah ben là, ça c'est la personne qui a ce problème-là, puis c'est la personne égale le problème. Ou est-ce que je vois au-delà, puis je dis, ouais, mais c'est une personne. Ouais, ouais, elle a un problème, on le nie pas, là, mais c'est une personne. Juste s'arrêter là-dessus, là, elle est une personne, elle vit des choses, puis là, comment je l'approche, là? La personne est une personne que Dieu aime, une personne pour qui Christ est mort, puis je vous dis, juste des fois, réfléchir là-dessus, ça change la dynamique. Donc, la question, où est ton focus dans ton focus, je pense pour un mot, sur quoi tu te concentres dans tes relations avec les autres? Sur les problèmes des autres, qu'on finit par considérer eux-mêmes comme étant des problèmes, des entraves, ou sur tes problèmes, sur tes fissures, qui empêchent le flot de la vie de Christ de couler pleinement et de porter du fruit, le fruit de l'esprit. Où est-ce que tu te concentres? Ça fait toute la différence. On parle de regarder à Jésus. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Ah, là, il y en a des problèmes qui sont vrais. Mais si tu regardes à Jésus, tu vois au-delà des problèmes. Tu vois que Jésus est capable de faire de quoi avec ça. C'est avec tes problèmes, ce que toi, te donne de la misère, puis que des fois, tu taillis pour ça. Est-ce que tu regardes à Jésus au-delà de tes problèmes? De toi, comment tu peux avoir de la misère? La question, donc, c'est comment est ta relation avec Dieu, puis qu'est-ce qui en ressort? La vie ou la mort? Écoutez, je vais vous dire quelque chose d'important des relations interpersonnelles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Des fois, c'est mieux de se taire que de dire quelque chose qu'on regrette plus tard. Comme dirait M. Côté, une fois que c'est parti, tu ne peux plus le rattraper dans l'air et essayer de le faire rentrer. C'est trop tard, c'est dit. La vie et la mort. La vie, ça reproduit, c'est beau. La mort, c'est la séparation. On dépend de ce sur quoi on se concentre. Si je me concentre sur les problèmes des autres, je vais dépendre de ça, je vais vivre selon ça, mes relations vont être déterminées par ça. Si je me concentre sur Christ, puis que oui, j'y vois les problèmes, je ne parle pas ici d'ignorer les problèmes puis de mettre les choses en dessous du tapis, là. Mais si je vois au-delà du problème, si je vois que le problème, ce n'est pas la fin, mais c'est un moyen pour arriver vers celui qui est la fin, vers celui qui est au-delà, si c'est ça ma concentration, ça va paraître. Dans mes relations avec les autres, savez-vous quoi? Ça va produire la vraie unité spirituelle. On peut juste s'endurer la face. Je vais vous donner une illustration là-dessus. Pendant longtemps, j'ai vu Dieu comme quelqu'un qui m'endurait. OK, Dieu m'aide, mais tu sais, j'ai pas mal de problèmes, puis je fais dur. Fait que tu sais, Dieu, il me voit là, puis
comme il m'endure, là, tu sais, je l'aime, mon fils est mort pour lui, mais... Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme si il est là, tu sais, puis il fait dur, là, tu sais, je l'endure. Mais savez-vous que c'est pas l'image qui est donnée par les Écritures de comment Dieu nous voit? Dieu nous parle d'un amour parfait. Dieu nous parle de, en Jésus-Christ, comment Dieu nous voit. C'est pas qu'il nous endure, c'est qu'il prend plaisir en nous. Vous avez pas d'Éphésiens? On fait le plaisir de Dieu. Moi, là, je vous dis, humainement, je vais me faire croire ça. Dieu prend plaisir en moi. Non, mais c'est vrai. Regarde, il tombe ses nerfs juste de même comme ça, puis je vais venir Dieu qui voit tout. Fait que, tu sais. Mais, écoutez, un moment libérateur pour ma vie, pour mon cœur, quand j'ai compris ça, comment Dieu, OK, il ne fait pas juste m'endurer, mais qu'il prend plaisir en moi, ça a aussi changé avec les autres. Parce qu'il y a du monde qu'on endure plus que d'autres. Soyons honnêtes, là. Il y a des gens qui ont des affinités naturelles, puis il y a des gens qui c'est moins naturel. Ça veut dire qu'on est conditionnel dans notre amour. Toi, je t'aime parce que t'es fin, toi, je t'aime parce que tu fites. Et toi, je t'aime moins parce que tu fites pas. Non, mais soyons juste honnêtes, là. Tu sais, si tu fais ça, si t'es comme ci, si t'es comme ça, si tu fais pas ci, on est conditionnel. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas la personne pour une personne, on l'aime pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas. On pense que Dieu est le même avec nous autres. L'unité spirituelle, là, c'est là que ça passe, ça casse. Ça, je vous dis, là, ça peut paraître un peu cocon pour affaire de voir la personne comme une personne, mais moi non. D'abord, c'est ça. La vois-tu juste de même. Puis de la même nature que toi, mais pas avec les mêmes problèmes.
Qu'on se pense jamais bon, qu'on n'a pas les mêmes problèmes que les autres. Je vous l'ai souvent dit, ça se joue à deux. La personne va se servir de bord. Ah oui, mais toi. J'ai dit, ah, toi, t'es ici, t'as ça, t'as bon, des problèmes avec ça, tu fais donc, mais dur. Comment quelqu'un peut avoir autant de problèmes avec ça? Ça veut dire d'abord, ah, ouais? Toi, t'as de la misère avec ça, avec ça, avec ça. Puis on va nulle part, on fait juste, on est concentré sur les problèmes des autres, puis on n'a plus les regards sur Jésus, puis il n'y a pas d'unité spirituelle. Avec nos langues, on donne la mort. Puis c'est pas l'unité spirituelle, c'est la séparation. Si un Dieu, si. Ma concentration, mon focus est sur Dieu, sa personne, sa mission de grâce en Jésus-Christ. Ce qui va caractériser mes relations et mon discours, ça va être la vie. Ça, je vais insuffler la vie, pas moi, mais Christ en moi. Parce que je fais simplement me placer sous son contrôle. C'est pas plus compliqué que ça. Je laisse Dieu travailler sur moi, je le laisse vivre en moi, s'exprimer par moi, puis lui, il va faire de quoi de beau. Puis là, je termine avec une petite perle de la parole de Dieu. C'est ma conclusion. Savez-vous que dans la dédicace du temple, bon, il y a deux endroits où est-ce que c'est donné, parce que les livres des rois et les livres des chroniques, il y a des événements qui sont répétés. Bien, dans le récit des chroniques de la dédicace du temple, on peut lire au verset, dans 2 Chroniques 5, 13, ça dit « Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, faire retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrant l'Éternel par ses paroles, car il est bon !» Car sa miséricorde durera toujours. Ça sonne comme du monde qui se concentre sur eux-mêmes, sur leur... Non, ils se concentrent sur Dieu, hein. Ils se rassemblent, ils chantent, ils se concentrent sur Dieu. À ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Quand le peuple de Dieu est uni à louer Dieu, à se concentrer sur Dieu, puis à se réjouir en lui, la gloire de Dieu repose comme ça. Puis, n'est-ce pas ce que Jésus a prié, qu'il soit un, pour que ta gloire, la gloire que Dieu a, qu'elle se manifeste. Donc, ce Dieu de gloire se manifeste à travers l'unité de son peuple, qui le célèbre, qui le loue, dont le cœur est captif à sa personne, ses œuvres merveilleuses. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Ta parole est la vérité. Ta parole nous illumine sur le chemin qu'on marche, mais aussi sur nos relations interpersonnelles. Ah, Seigneur, tu vois, tu es venu nous racheter de nous-mêmes. Tu es venu nous racheter de nos tendances qui sont tellement répétitives. Et on est tous pareils. On a tous tendance à magnifier les problèmes des autres, les voir donc graves, puis à excuser, minimiser les nôtres. Mais Seigneur, merci que tu es venu pour nous libérer aussi de ça. Et merci que lorsque, Seigneur, on se place comme ça sous ton joug, sous ta direction, sous ta houlette, Seigneur, ça produit la vie. Ça produit la beauté de Christ au milieu de nous autres. Ça produit le surnaturel, de l'unité spirituelle. Seigneur, que comme Église, que entre Église, qu'entre chrétiens, on conserve l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Seigneur, on est en accord avec ta prière. Et donc, on dit amen à ta prière et Seigneur, on s'y joint. Et on te remercie, Seigneur, de nous amener ces choses et qu'on va continuer la semaine prochaine. Continue de nous enseigner ça. Ouvre-nous les yeux sur ces choses au nom de Jésus. Amen.